Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
C'est final.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, quel plaisir d'être avec vous hein, tous les lundis, hein, 19h, 20h30, on a chaque fois beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous raconter, ça va être encore le cas ce soir, on reviendra sur le salon de l'automobile avec Alexandre, on aura une longue interview d'Amandine Bouchard aussi, hein, la judoka dorénavant du Stade Français, et puis on va recevoir, on aura également une grosse page foot, c'est normal, hein, actu très importante en cette soirée de Ballon d'Or. Et puis, on va recevoir notre invité du jour, après le ski la semaine dernière. On va parler du premier sport olympique, l'athlétisme, avec M. Jean-Jacques Godard, président de la Ligue Île-de-France. Monsieur Godard, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Bon, très bien. En pleine forme ?
Ah ben, on est en pleine forme, oui. On arrive d'un grand championnat de 5 km à Saint-Omer dans l'après-midi. Là, c'était hier, avec 5000 coureurs. Ah. Et on a repris les affaires de l'athlétisme Île-de-France depuis cet après-midi.
D'accord, donc vous avez vu hein, le sommaire, émission vraiment omnisport. Donc on aura quand même l'occasion dans la deuxième partie de cette émission eh bien, d'essayer de voir comment vous vivez, j'allais dire, l'après Jeux Olympiques et Paralympiques à travers donc, votre sport. Ceux qui vont m'accompagner avec moi, je salue Vanessa. Bonsoir Vanessa, ça
bonsoir
va ?
Bonsoir Philippe, bonsoir ouais. À tous.
Bon, t'as mis la paire de skis de côté et t'as pris les points pour l'athlétisme.
Hein. Voilà, exactement.
Voilà, c'est ça, hein. Et puis je vais saluer Alexandre. Bonsoir Alexandre, ça
bonsoir
va ?
Bonsoir Philippe, bonsoir ouais. À tous.
Grosse actu foot, hein ?
Grosse actu foot, hein, grosse actu sportive dans l'ensemble.
Ouais, ouais, ouais. On parlera du Ballon d'Or, hein, notamment dans la deuxième partie de cette émission, à l'occasion donc de la rubrique foot. Alexandre, je crois savoir que tu es allé au Salon de l'Auto.
Absolument, ça fait maintenant 2 semaines que je suis allé au Salon de l'Auto. Puis comme d'habitude, hein, c'était une super expérience. Puis les constructeurs ont pu exposer leur voiture, des pièces rares, des pièces atypiques. Il y avait du monde quand je suis allé. Oui. Pourtant, je suis allé un jeudi à 11h. Ouais. Il y avait quand même du monde. Et il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de classes, beaucoup de famille, donc c'était très sympa.
Ouais, donc 508 000 entrées en 6 jours quand même. Je sais qu'on a battu des records et dans le domaine du sport, naturellement. On a eu Pierre Gasly, on a eu Sébastien Loeb, on a eu Antoine Dupont qui est venu et puis aussi notre ami et confrère Nelson Monfort. Et puis il y a eu 7 ministres du gouvernement Barnier et naturellement le président de la République, Emmanuel Macron, qu'on a croisé, hein, on vous l'avait dit, on a eu l'occasion de le rencontrer à l'occasion de la journée presse, et on lui a demandé si tout était fait pour eh bien, actuellement le secteur automobile à travers donc, les décisions gouvernementales.
Je pense que, regardez ce qui est fait depuis 7 ans, je me suis toujours évertué à donner de la visibilité à l'industrie, de regarder, d'avoir justement un soutien fort à l'investissement et de donner de la stabilité. On l'a fait, ça produit des résultats. Je pense que ce n'est pas la même chose quand on parle de la Chine. Donc moi, je souhaite que à la fois le gouvernement et le Parlement puissent trouver le bon chemin qui leur permettra tout à la fois de trouver les équilibres financiers, l'équation politique, mais de le faire en préservant la création d'activités, la création d'emplois dans notre pays.
Mais la taxation des grands groupes, c'est une bonne idée pour les aider, vous pensez ?
Je ne suis pas un commentateur d'un projet texte financier qui a été déposé la semaine dernière. Je vous dis ce que je souhaite et la stratégie, en tout cas, qui est suivie par la France depuis 7 ans.
Et, vous souhaitez
taxer ? Et à côté de ça, moi, je souhaite qu'on continue à créer des emplois. Vous savez, le cœur, pour moi, du travail qu'on doit faire, c'est de continuer à créer des emplois, de créer de la richesse dans notre pays, pour ensuite avoir les bons débats pour savoir comment la redistribuer. Mais nous sommes l'un des pays de l'OCDE qui taxe d'ores et déjà le plus, malgré toutes les baisses qu'on a faites depuis 7 ans. Et quand on regarde les choses, surtout par rapport aux États-Unis, par exemple, le problème de l'Europe, c'est sa croissance et sa capacité à innover. Donc c'est ça qu'il faut booster.
Donc faut pas taxer.
Et donc c'est ce qu'on fait. Et donc c'est ce qu'on fait. Pardon ?
Est-ce que vous répondez à Carlos Tavares justement là-dessus sur la CIR ?
Mais je ne sais pas ce qu'a dit Carlos Tavares sur le CIR. Donc je veux bien répondre à Carlos Tavares qui était avec nous hier soir, mais je ne sais pas sur quoi je dois lui répondre.
Il a dit qu'il n'était pas assez payé aujourd'hui pour payer des impôts en France.
Ah, d'accord.
Qu'il payait au Portugal parce qu'il n'était pas assez payé pour voir.
Je pense que c'est sans doute un trait d'humour.
Bonjour, excusez-moi, je ne suis pas un commentateur. hauteur de la stratégie présentée par les deux chambres, c'est ça ?
Je suis, bien sûr. Je vous dis que simplement quel est le cap du pays, ce qu'on fait depuis 7 ans, les résultats qu'on a sur l'automobile. Et ces résultats, on doit les consolider parce que...
Ils sont mauvais, les résultats, monsieur le Président.
Pardon, les résultats sur l'automobile, je vous le redis. Sur le véhicule électrique, on s'était donné comme perspective de consolider 1 million pour 2027. On l'a fait. Et donc aujourd'hui, on va monter progressivement, mais on est sur cette trajectoire. Pourquoi ? Parce qu'on a fait tout ce travail, ce que je répétais, il y a 7 ans, vous n'aviez pas de véhicule électrique produit dans notre pays. Aujourd'hui, avec la R5 électrique, par exemple, il est assemblé, il est produit, mais la batterie aussi est faite en France. Il y a 5 ans, vous n'aviez pas une usine de batterie dans notre pays. Aujourd'hui, on les développe et on remonte même sur l'amont. Donc, on est en train de consolider un secteur électrique qui produit et produira encore davantage chez nous. On doit continuer encore à gagner des parts de marché pour arriver aux 2 millions dont j'ai parlé en 2030. Mais donc, là-dessus, on avance, on progresse. La France est le pays numéro 2 en Europe en termes de déploiement de bornes de recharge. Donc là aussi, on a fait un très gros travail ces dernières années d'investissement. Maintenant, il faut qu'on continue ce travail. C'est ce qu'on discutait avec M. Châtel et l'ensemble de la filière hier. J'ai reçu à l'Élysée avant ce salon. Et donc pour ça, il faut donner de la stabilité. Il faut que l'Europe ait une stratégie unie. Il faut qu'elle aide dans cette transition. Il faut que l'Europe continue d'investir pour justement permettre cette transition et ces investissements. Et il faut en même temps qu'on préserve les bonnes règles du jeu sur le marché européen. Parce qu'aujourd'hui, on a un double problème. On a une contraction, si vous voulez, de la demande. C'est vrai en France, mais c'est vrai partout en Europe. Un des leviers qu'on va essayer d'activer en France et en Europe sont les flottes de véhicules, qui sont la moitié du marché neuf. Et puis, l'autre problème, c'est que la Chine a des surcapacités et qu'elle veut les déverser sur notre marché. C'est pour ça que nous avons soutenu la Commission européenne avec son projet, justement, de taxes en fonction de ce qui est reçu.
Voilà donc pour l'interview du président de la République. Alors bon, on pourrait aussi le mettre dans le contexte sportif. Vous, l'homme de la course à pied, c'est bien qu'on laisse un peu la voiture de côté ?
Oui, évidemment, mais...
Ou qu'on fasse attention un petit peu
qu'on fasse attention à tout ça, mais c'est pas la course à pied qui est le plus gênée par la voiture. Je pense notamment à mes amis cyclistes à côté.
Oui, bien sûr. Voilà. Alexandre, donc il y a eu des beaux modèles de sport mécanique, hein, de sport automobile. Hein, on a eu des belles voitures. Hein.
Des très très belles voitures, ouais. Ferrari, ouais. Tesla.
Celles qui ont brillé également pour la compétition automobile du sport français. Hein, les Matra qui avaient notamment gagné les 24 heures.
Oui, les 24 heures du Mans, oui. Mmh. Il y avait des voitures anciennes. Et le plus gros stand, sans surprise, bien évidemment, c'était celui de Renault.
Oui.
Où il y avait beaucoup, beaucoup de monde aussi. Donc, ça fait plaisir de voir l'industrie française comme ça, très bien représentée. Et les voitures asiatiques aussi, qui étaient en vogue. Des voitures très spéciales, très atypiques et très futuristes. Donc, franchement, c'était une belle expérience pour l'automobile.
Allez, on va s'intéresser aussi à une jeune femme. Elle sera dans nos studios le 9 décembre prochain, qui fait de la compétition automobile. Elle est pilote, hein, ou coureuse automobile, comme on dit donc au Canada. Et elle est dans l'écurie Schumacher. Et vous allez voir, elle a eu quand même un parcours assez atypique. Émilie Villa. Avec Émilie Villa, donc jeune coureuse de l'écurie Schumacher. Émilie, vous venez de croiser le président de la République. Quelle impression ça fait ?
C'est très impressionnant, très stressant aussi, mais ça fait plaisir de voir qu'il est aussi impliqué dans une écurie comme la nôtre et qu'il aide aussi les femmes comme nous à grandir dans le sport automobile.
Alors, vous êtes effectivement pilote automobile dans l'écurie Schumacher. C'est arrivé comment ?
J'ai commencé le sport automobile il y a 3 ans.
3 ans seulement ?
Tout à fait. J'ai pas fait de karting avant et c'était suite à un gros burn-out. J'ai voulu faire un métier qui me plaisait. J'aimais la voiture, la vitesse, et je me suis dit je vais essayer d'être pilote de course. Et je suis allée voir les écuries au culot. Et ma motivation et ma persévérance ont fait que une écurie comme Schumacher m'a laissé une porte ouverte. Et je me suis entraînée beaucoup avec eux. Et là, on a fait un podium il y a 2 semaines au circuit du Mans.
D'accord.
Donc voilà, c'était une saison d'entraînement, mais qui a été assez florissante. Donc on recommence l'année prochaine, normalement.
Oui. Vous êtes quelqu'un dans la vie d'intrépide, une casse-cou, non ?
Complètement folle, ouais, tout à fait. Mais en même temps, un peu timide aussi, mais complètement folle. Sinon, on serait pas pilote si ce n'était pas un petit grain de folie.
Et qu'a dit votre entourage ? Parce que, bon, fatalement, on prend des risques hein, quand on fait de la compétition automobile. Quelle a été la réaction de votre entourage ?
Ils m'ont dit que j'étais folle déjà. Et ils sont en panique dès que j'ai un week-end de course. Ils ont toujours peur de moindre erreur, on finit dans le mur. Ils ont toujours très peur de ne pas me revoir le week-end d'après. Quoi. Donc, mais ils sont très heureux pour moi. Ils me poussent à fond et ils sont à fond, à 100% derrière moi.
Alors quand on est dans l'écurie Schumacher, c'est-à-dire qu'on passe tout son temps à piloter. C'est, l'objectif, c'est de vivre de ce métier.
L'objectif, c'est de vivre de ce métier. Donc, du coup, nous, on s'entraîne beaucoup à la salle de sport, beaucoup de simulateurs. Majoritairement, on a tous un simulateur chez nous pour s'entraîner à fond. Et on s'en fait des roulages sur circuit de temps en temps pour s'entraîner aussi, pour être prêt pour les courses. Mais c'est beaucoup d'entraînement physique, surtout, et beaucoup de simulateurs. Oui.
Donc, l'objectif, c'est d'être un jour peut-être en Formule 1. Il y a, dans combien de temps ?
Alors, j'adorerais être en Formule 1, mais je suis malheureusement trop vieille pour ça. Donc non, moi, le but, c'est plutôt de rester en GT3 et GT2 peut-être, mais d'être devenir championne bientôt en GT3.
D'accord. Et peut-être aussi un jour l'endurance, pourquoi pas, les 24 heures du Mans ?
Ah oui, avec plaisir. J'aimerais beaucoup faire les 24 heures du Mans d'ici 3-4 ans, en fonction des performances et des sponsors surtout, qui me permettront d'aller aussi loin que possible.
Oui. Quand on est une jeune femme comme vous, il y en a beaucoup qui vous imitent, parce que c'est quand même un milieu d'hommes.
Il y a beaucoup d'hommes. Par exemple, dans mon championnat, moi, je suis toute seule. Donc, on est 40 pilotes par temps. Je suis la seule femme. On a d'autres pilotes aussi qui font d'autres types de voitures. Et elles aussi sont toutes seules avec 40 ou 50 pilotes en concurrence. On est, nous, dans l'écurie, on est 4 femmes et beaucoup plus d'hommes. Je n'ai pas le nombre exact, mais on est très peu. Ça nous marque un petit peu aussi. Donc, ça nous aide. Mais c'est dur de ne pas être juste une potiche et montrer qu'on a notre place dans le sport automobile.
Jamais de graves accidents ?
Pas encore. Et j'espère que non. Ouais. J'espère que non.
Bon, bah écoutez, merci en tout cas, puis on vous aura en direct dans nos studios.
Eh ben, un grand plaisir, merci à vous.
Voilà pour Émilie Villa, donc l'interview de cette jeune pilote de l'écurie Schumacher qui viendra donc nous parler effectivement de sa passion et de son métier dans l'émission du 9 décembre. Donc ça, c'était pour le salon de l'auto. Et le lendemain, on a eu l'honneur d'aller donc au centre Omnisport Géo André de Paris, juste à côté du Parc des Princes, tu vois, pour donc le lancement de la première soirée du Stade Français Business Club Omnisport, hein, qu'on a souvent reçu donc à ce micro. Club du Stade Français qui a fourni quand même Guy Drue, Jean Galfione et Marie-Jo Perret dans l'athlétisme. Hein.
Et oui, Monsieur effectivement. Godard, hein. Et ouais. Puis, vous pouvez même dire Alain Mimoun.
Oui, Alain Mimoun aussi.
Alain Mimoun était aussi. C'est... Aujourd'hui, le Stade Français est le plus grand pourvoyeur de médailles athlétisme en France. Mm-hmm. Donc, effectivement, ce stade est... le Stade Français est un stade mythique. Enfin, le stade, le club est un stade parce que malheureusement, on en parlera peut-être un peu plus tard. Le stade, c'est physiquement, c'est autre chose. Oui. Mais non, c'est vraiment un très très beau club, extrêmement familial également.
Oui. Alors, effectivement, je l'ai vu, hein, très familial. Et le thème de ce premier business club, c'était naturellement l'héritage de Paris 2024. Hein. Et auparavant, et bien juste quelques heures avant, il y a eu l'annonce officielle de quelqu'un que vous connaissez bien, Amandine Bouchard, hein, double médaillée par équipe mixte, donc médaille d'or en 2021 et 2024, et puis médaille d'argent en 2021, et puis de bronze en 2024 en moins de 52 kilos hein, en individuel, donc 4 médailles au total. Et bien Amandine Bouchard, elle va essayer d'aller encore plus haut, de faire encore mieux. Non seulement, elle veut mener une double carrière maintenant dans le judo et dans le rugby à 7. Et le seul club qui l'a suivi dans son projet, qui va la suivre dans son projet, c'est donc le Stade Français. Donc ce qui fait qu'elle quitte le club voisin du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc on va écouter Amandine qu'on a rencontrée avec une partie de nos consoeurs et confrères. Et vous allez voir, elle est déjà bien décidée à mener à terme ce projet. Amandine, pourquoi ce fou défi ?
Pourquoi ce fou défi ? Parce que déjà, plus les challenges sont hauts, plus ils me transcendent et plus ils me donnent envie de travailler dur. Et puis, plus ça m'excite en fait, d'atteindre des objectifs hauts. Pourquoi le rugby ? Ça a été une passion quand j'étais enfant et c'est un sport que j'ai beaucoup pratiqué, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai aussi beaucoup, qui m'a beaucoup manqué parce que j'ai dû arrêter, parce que j'ai dû faire un choix. Je suis rentrée en structure de haut niveau judo et à cette époque, ce n'était pas possible de concilier les deux. Et ça ne m'était même pas venu à l'esprit parce que j'avais qu'un objectif, c'était être championne du monde, championne d'Europe, championne olympique de judo. Donc voilà, ça s'est fait naturellement au fur et à mesure des années.
Vous parlez du dossier porté par le papa pour convaincre la maman tout à l'heure. Que vous ont dit vos parents, votre entourage de ce projet-là, qui ont un regard un peu plus protecteur sur vous?
Franchement, je n'ai pas eu d'avis négatif. Au contraire, on m'a poussé, on m'a dit, mais carrément, t'en es capable, vas-y, fonce. En plus, ils savent que le fait que ça n'a pas été fait, le projet judo rugby, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui sera nouveau. Moi, j'adore les challenges, donc c'est encore plus excitant comme challenge de se dire, ouais, tu seras peut-être la première à le réaliser. Donc ça me motive, ça me transcende, ça m'excite. J'ai envie de d'atteindre ces objectifs-là. Et eux, non, ils m'ont pas dit, ah non, surtout pas, tu vas te blesser, mais tu vas faire comment? Ils ont même pas cherché à comprendre, tu vas faire comment? Ils ont dit, carrément, fonce. Entoure-toi des bonnes personnes et tu seras capable d'atteindre tes objectifs. Donc, non, franchement, j'ai mes amis, les personnes que j'ai autour de moi, ils sont vraiment top. Et ils ont dit, peu importe ce que tu choisis, nous, on sera derrière toi et on va t'accompagner au mieux qu'on pourra, quoi.
Le défi, c'est deux médailles à Los Angeles dans les deux sports ou la possibilité de se dire à un moment, je lâche le judo parce que le corps.
Non, l'objectif, c'est déjà 3 médailles. Parce qu'au judo, je peux en avoir 2. Donc, non, l'objectif, ça va essayer d'avoir 3 médailles. Là, je suis au début de mon projet. Il est même pas envisageable que j'en abandonne l'un des deux. Parce que c'est ça aussi la beauté du projet. C'est de réussir, d'essayer d'être performante dans les deux. Donc, non, il y a... J'imagine pas le judo sans le rugby sans le judo. J'ai vraiment un objectif d'être performante dans les deux, de me faire ma place dans le monde du rugby parce que je pars de zéro. Je suis personne. Donc, j'ai hâte.
Qu'est-ce que tes copines du judo, elles t'ont dit quoi? Parce que bon, elles te connaissent, donc oui, mais elles t'ont dit quoi quand tu leur as dit je vais faire ça?
Déjà, elles m'ont dit t'es folle. Elles m'ont dit t'es folle parce qu'en plus de ça. J'ai fait des matchs avant les Jeux, j'en ai fait 5. Il y en a certaines qui sont venues me voir, m'encourager. Elles m'ont dit, mais t'es une grande malade. Et elles étaient à fond dedans. En plus, elles m'ont fait beaucoup de compliments. Elles m'ont dit, franchement, il y a quelque chose. T'es capable. Et en fait, ça te motive. Tu te dis, si tes proches, ils y croient, là, t'as quand même un club référent qui y croit et qui se dit, ouais, carrément, let's go, on y va, on va le faire tous ensemble. C'est d'autant plus motivant. On se dit, hormis le cercle familial, qui on peut se dire, ils seront toujours derrière toi, voilà. Là, je me dis, non, il y a une preuve que c'est vraiment possible et qu'il y a vraiment des gens qui y croient. Donc, non, moi, ça me fait plaisir. C'est une grande fierté. Et franchement, je suis honorée par le Stade français d'être tout simplement stadiste aujourd'hui. Donc, j'ai trop hâte. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que il y a ce côté humain que parfois dans le haut niveau on oublie. Et nous, sportifs, on n'est pas des machines, on reste des êtres humains avec des émotions, des sentiments, et de savoir qu'il y a des gens qui sont à l'écoute et qui sont là pour nous accompagner, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien.
Tu veux embarquer Julia avec toi?
Alors, Julia a des grandes capacités rugbystiques, de toute façon elle l'a dans le sens, la génétique, mais on est deux profils différents. Julia, c'est ma meilleure amie et je serais égoïste de l'entraîner dedans, dans le sens où moi, j'ai connu les Jeux. J'ai connu les Jeux, je les ai fait 2 fois et je trouverais ça dommage qu'elle ne les fasse pas parce qu'elle a la capacité de les gagner. Je ne dis pas juste de participer, elle a la capacité de les gagner. Et en tant que meilleure amie, même si j'adorerais vivre une carrière à ses côtés dans le monde du rugby, je ne l'attirerai jamais dans le monde du rugby. C'est-à-dire, si tu vas en faire de temps en temps pour te changer les idées, ok, mais ne te trompe pas d'objectif. Toi, il faut que tu sois championne olympique de judo. Donc après, si elle veut faire du rugby plus tard, une fois qu'elle aura fait les Jeux, why not? Mais je pense qu'il ne faut pas qu'elle se trompe d'objectif. J'essaye d'avoir ce rôle de grande sœur et de la conseiller le mieux possible. Et pour moi, le mieux, ce serait qu'elle se focus sur les Jeux en judo et qu'elle aille les gagner.
L'emploi du temps de la semaine va être assez dingue là. Après, ça va monter sans doute avec des périodes un peu différentes en fonction des compètes de judo, mais ça va être assez dingue. Vous n'allez pas vous embêter?
Ah non, alors ça c'est sûr, je ne vais pas m'ennuyer. Déjà, depuis janvier, je ne m'ennuyais pas. Le lundi, j'étais à 3 entraînements, le mardi 2, le mercredi 2, le jeudi 3, le vendredi 2. Le week-end, je m'entraînais. Le dimanche, j'avais soit 5, soit match. Le samedi, j'allais faire des squash. Donc, Non, je m'ennuie pas. Après, moi, je suis épanouie comme ça. Je m'éclate à pratiquer du sport. Donc, à partir du moment où je sais mettre le frein au bon moment, c'est-à-dire qu'il y a eu des fois où j'ai eu l'intelligence, parfois où j'étais vraiment fatiguée, là, j'ai dit non, je fais l'impasse sur cet entraînement. Parce que la fatigue, c'est le premier facteur de blessure. Donc, il y a eu des fois où je ne suis pas allée m'entraîner parce que j'étais vraiment KO. Et puis, il y a des fois où, en fait, j'ai adapté. On va être dans l'adaptation et l'aménagement. Donc, non, franchement, je n'ai pas peur de ces semaines-là. Moi, au contraire, j'adore. Enfin, je vais pratiquer. Je vais avoir la chance de pratiquer deux sports que j'affectionne, que j'aime et d'être accompagnée. Donc, franchement, non, j'ai tout pour réussir. En tout cas, on va me donner les clés pour... Et j'ai que des gens bienveillants autour de moi. Donc, non, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte.
Justement, au niveau calendrier, il peut y avoir des petits problèmes par moment.
Alors, il y aura peut-être des choix à faire. Mais franchement, moi, j'en ai fait beaucoup des compétitions. Là, je vais prioriser les championnats d'Europe, championnats du monde, master et jeux. Donc, des compétitions comme je pouvais faire 11 ou 12 compétitions à l'année, ce ne sera pas le cas. D'autant plus que là, pour le coup, je suis... En haut niveau judo, je suis la seule au club du Stade Français Judo. Donc déjà, j'aurai toutes les compétitions par équipe en moins. Donc ça va pouvoir me dégager aussi de la place dans mes plannings. Donc non, on va trouver le juste milieu. J'aurai un ou deux tournois de temps en temps pour tout simplement aller chercher mes sélections, hein, comme tout le monde, en judo. Mais non, je pense qu'en plus de ça, là, les matchs de rugby, c'est de septembre à avril, mai. Nous, les championnats du monde, c'est juin, juillet.
Les championnats d'Europe au printemps, quand même.
Oui, 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 mais on trouvera le juste milieu. Franchement, alors là, je me pose pas de questions. Vraiment.
Justement, par rapport au calendrier, est-ce que ta première compète de judo, ça sera quand tu fais Bercy? Quand est-ce que tu as fixé de reprendre?
Pas du tout. Pas du tout. Alors là, Bercy, ce serait pas très bon stratégiquement de reprendre sur Bercy. Pourquoi? Déjà, j'aurais pas beaucoup d'entraînement dans les pattes. De deux, Bercy, c'est un grand slam, mais ce n'est pas une compétition que je prends à la légère. C'est une compétition de très haut niveau, parfois que je trouve plus relevée qu'un championnat d'Europe. Donc non, je ne vais pas m'arriver les mains dans les poches sur un grand slam de Paris. Si je m'engage sur une compétition, c'est que j'ai les capacités nécessaires pour aller le gagner. Donc non, Paris, pour moi, il n'en est pas question. Maintenant, je me suis fixé les championnats d'Europe. Et oui, j'aurais à cœur pour cette préparation de faire une compétition avant les Europes. Pourquoi pas la Turquie ou la Géorgie, je ne sais pas encore. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça que je vois la suite.
De manière très pratique, il n'y a qu'une qualifiée par catégorie en judo au jeu. Est-ce que tu n'as pas peur que le fait que tu te prépares beaucoup en rugby te bloque un peu auprès de la fédération? Est-ce qu'ils auraient des craintes et qu'ils préfèrent prendre quelqu'un d'autre?
En fait, je ne vais pas leur laisser le choix. C'est-à-dire qu'en étant performante et en étant la meilleure dans ma catégorie en judo, je ne leur laisserai pas le choix de ne pas me sélectionner. C'est-à-dire que si je suis bonne au rugby, que je passe plus de temps au rugby, mais que je suis performante au judo, ils n'auraient aucune raison de ne pas me sélectionner. Au final... Vous savez, je ne me suis pas entraînée de novembre à mars en judo et ça ne m'a pas empêchée d'être performante au premier Grand Slam où je suis sortie en Ouzbékistan, d'être médaillée au championnat du monde. Et pourtant, les gens, ils pensaient ça impensable de oh, « mais tu ne fais pas du judo la semaine, tu ne fais que de la prépa. » Mais bah oui, mon profil fait que, je ne sais pas, j'ai peut-être je suis peut-être talentueuse, mais aussi c'est allié au travail. Qui a fait que même en étant éloignée des tatamis, j'ai quand même été performante quand j'ai dû l'être le jour J. Donc non, en fait, je ne vais pas leur laisser le choix. C'est aussi simple que ça. Pour me sélectionner, il faudra que je sois performante. Et même si j'ai beaucoup moins de temps sur le tatami, si je suis numéro 1 française, ils n'auront pas le choix.
Et puis avoir la crainte de la blessure, de se dire elle peut se blesser en rugby au début des jeux et donc pas être disponible pour le judo. Et est-ce que les calendriers ne chevauchent pas même pour les deux compétitions?
Je pourrais me blesser au judo, je pourrais me blesser le rugby, je pourrais me blesser les dimanches quand je vais faire du five, je pourrais me blesser en faisant, je sais pas, de la trottinette ou en traversant la rue. Enfin, vraiment, je ne pense pas à la blessure parce que j'aime bien dire que plus tu y penses, plus tu l'attires. Là, au rugby, j'ai repris le rugby, on m'a dit « t'as pas peur de la blessure ?» Bah non, pas du tout. Enfin, je suis confiante sur mes capacités physiques. Je suis assez grande pour manager mes semaines, pour être à l'écoute de mon corps. Bah non, pourquoi j'aurais peur de la blessure? si je mange correctement, je dors bien, je trouve mon rythme. Non, ça peut arriver. Hein. C'est les aléas du sport de haut niveau, c'est les aléas de la vie, mais franchement, je n'en fais pas un focus, quoi.
Pour ce projet, est-ce que tu as pris conseil à d'autres athlètes olympiques qui ont un projet un peu similaire? Je pense à Florent Manoudou, même s'il fait handball et natation, même s'il ne veut pas une volonté olympique dans le handball. Mais est-ce qu'il t'a donné des conseils ou quelqu'un d'autre? Antoine Dupont, peut-être?
En fait, on en parle ensemble. En fait, on ne parle pas d'objectifs. On se dit, tu t'aimes faire ça, fais-le. Franchement, on ne se pose pas de questions. Tu as des opportunités qui vont s'offrir à toi, prends-les. À partir du moment où tu es épanoui et heureux, franchement, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et non, on ne s'est pas donné des conseils entre nous parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et en plus de ça, chacun pratique comme il le souhaite. Donc non, c'est pas forcément, on n'en a pas forcément parlé entre nous, non.
Voilà, effectivement, donc c'est le projet donc d'Amandine Buchard, et c'est vrai qu'Amandine, c'est une fille très déterminée. Hein. Il y a aucun, ça serait quand même un exploit fabuleux d'ajouter 3 médailles justement déjà aux 4 médailles qu'elle possède, et donc 2 sports complètement différents.
Oui, effectivement, mais c'est une fille qui a un caractère extraordinaire. Oui. J'en avais parlé avec un de ses entraîneurs.
Oui.
Et franchement. Elle a la tête bien faite, elle a tout dedans, c'est un rentre-dedans, c'est comme on avait dit une fois, c'est une grenade découpillée, cette fille, elle est fantastique.
C'est sûr,
donc
c'est sûr.
Je pense qu'elle peut réussir.
Ouais, en tout cas, on a passé un bon moment. Alors, celle qui y croit aussi beaucoup, c'est celle qu'on avait reçue à ce micro en juin 2023. Elle était présidente du tennis à l'époque, elle est maintenant devenue présidente de la section du Omnisport du Stade Français. C'est Pascale Picmal, ravie naturellement de la venue d'Amandine au Stade Français.
Vous pouvez nous décrire ce projet, est-ce qu'il n'est pas un peu fou quand vous avez appris que Amandine avait ce double projet? Qu'est-ce que vous êtes dit?
Alors, bien sûr, c'est un projet un peu fou, mais en fait, au stade, on a toujours été un peu fou. c'est vraiment la marque du club, avoir toujours eu des rêves, des passions et croire que ça peut arriver. Là, ce qui est intéressant dans le projet d'Amandine, c'est que c'est une athlète accomplie qui est déjà médaillée olympique dans un sport et qui se remet en cause pour reprendre à zéro dans un autre sport, ou quasiment à zéro, parce qu'elle a quand même des capacités naturelles et d'athlète de haut niveau. Et nous, en fait, on est un club amateur, on forme des jeunes, on forme des champions, ou des jeunes qui ne seront jamais champions, mais juste des jeunes sportifs qui se font plaisir, des plus adultes. Donc c'est vrai que c'est quand même vraiment sympa d'avoir une athlète comme ça qui nous rejoint, qui apporte sa notoriété, ses compétences, mais également un rêve un peu fou dans lequel on peut l'accompagner.
Vous n'auriez pas accepté n'importe quel projet d'un ou d'une athlète médaillée olympique? C'est aussi une question de personnalité et d'approche par rapport à ce double projet qu'avait Amandine?
Ah oui, bien sûr. Alors, on est effectivement régulièrement approché par des athlètes. Après, nous, on est une association sportive, donc on n'est pas, par définition, on est pauvre. On n'est pas très riche. On a un gros cœur et beaucoup de passion, mais on n'est pas un club professionnel comme peut l'être l'ancien club de judo d'Amandine. Donc, on est approché, mais c'est vrai que il fallait partager un rêve commun. Enfin, et on est un vrai club omnisport. Et avec Amandine, on a senti qu'on pouvait le partager facilement.
Et qu'on dit les différentes fédérations?
Pour le moment, toutes les fédérations sont quand même plutôt occupées par les élections après les Jeux Olympiques, hein, pour être un peu transparente. Après, ça serait quand même vraiment dommage qu'une fédération ou l'autre, d'ailleurs, ne l'accompagne pas parce que c'est aussi ça le sport. Je vous ai cité tout à l'heure, les sportifs avant faisaient plusieurs sports. On est devenu très professionnel, très centré sur un sport aujourd'hui, mais c'est pas comme ça que ça se passait il y a quelques années encore.
Oui, parce que ce sont deux sports très différents quand même.
Oui, très différents, mais avec des bases communes quand même. C'est vrai que le contact, c'est quand même un point clé de ces deux sports. Où elle peut capitaliser. C'est vrai que, je joue au tennis par exemple, aller du tennis vers le judo ou du tennis vers le rugby, c'est au départ un peu plus compliqué parce que n'y a pas de contact au tennis. On a le filet avec l'adversaire, donc c'est pas tout à fait la même façon de voir les choses.
Sport individuel et collectif, rugby.
Oui, alors Amandine l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est vrai que En fait, on dit toujours qu'il y a des sports individuels, mais un sport individuel où on a besoin d'un adversaire, dans la vraie vie, c'est un sport collectif tous les jours à l'entraînement, parce que il faut bien trouver quelqu'un avec qui s'entraîner. Bien entendu, c'est toujours un sport d'équipe. Donc, qui se joue en collectif ou qui se joue en individuel, mais la formation en tant que telle, c'est toujours une formation d'équipe.
Il y a plein de sujets qui reviennent autour de la saturation du calendrier des athlètes. Je pense à Kylian Mbappé qui est dans l'actualité aujourd'hui, qui n'a pas joué avec les Bleus mais qui a joué avec le Real, sans doute pour plein de raisons, mais aussi pour alléger un peu son emploi du temps. Il y a la santé mentale des athlètes. Est-ce que ça, c'est pas un sujet aussi qui est de votre responsabilité? Elle est hyperactive, on l'a vu, mais c'est dangereux d'exposer un athlète à autant d'entraînement, à autant de compétitions, à autant de stress.
Alors, elle va être suivie par des professionnels, hein, donc ça, c'est sûr que ça va aider. Après, nous ne sommes pas sur des sports professionnels. Il n'y a pas d'argent. Enfin, il y a niveau professionnel, mais sans argent en jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose que le football, où chaque fois que Mbappé va sur un terrain ou ne va pas sur un terrain, les retombées financières pour les clubs ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, dans le sport, déjà, le sport féminin ne brasse pas autant d'argent que le sport masculin. Et puis, le judo et le rugby ne sont pas aussi mis en avant que le football. Donc, déjà, il y aura moins de stress à la compétition. Après, sur le rugby, encore une fois, on est sur un projet à 4 ans qui va se construire progressivement pendant les 4 années. Sur le judo, elle a déjà atteint un certain nombre d'objectifs, donc elle en a encore, et c'est sympa de l'entendre en parler. Mais elle va pas courir après tous les objectifs comme elle a certainement dû le faire il y a 4 ans ou il y a 6 ans ou même pour ces Jeux Olympiques. Voilà, donc ça, on va faire confiance aux professionnels qui vont surveiller qu'elle trouve son équilibre dans ces deux sports, dans sa vie personnelle et voilà.
Et le but, c'est bien de ramener 2 médailles, une pour le judo et une pour le rugby à Los Angeles.
Alors, ça serait magnifique. Ça serait magnifique, même plusieurs, parce que au judo, il y a individuel et collectif, donc on ne va pas la freiner. Après, nous, on sera heureux, j'ai envie de dire, quel que soit le résultat de Los Angeles, d'avoir pu partager ça avec elle.
Voilà pour donc la présidente Pascale Pigmal. On va écouter maintenant le président de la section rugby, Philippe Jolin, qui lui va naturellement tout faire pour monter en puissance Amélie. Philippe Jolin, une belle recrue avec Amandine.
Ah oui, une très très belle recrue, une très grande championne. En tout cas, on est au Stade Français ravis d'accueillir Amandine et de l'aider dans son projet, de l'accompagner. Après de longues discussions avec elle, on a établi un plan pour arriver à son objectif. Et puis surtout, au sein des Pink Rockets, hein, notre équipe féminine, accueillir une championne avec un niveau d'exigence comme Amandine A va nous amener plus de performance, plus d'envie. Donc c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant pour nous. Et ce qui est aussi gagnant aussi pour l'équipe féminine du Stade Français, puisque, je le répète, le Stade Français a un vrai objectif dans sa politique, notamment RSE. Un de ses piliers, c'est la féminisation du rugby. Et donc ça, c'est aussi un bel exemple pour la lumière qu'Amandine va apporter à notre équipe.
Oui, mais c'est un fou défi quand même.
Pardon ?
C'est un fou défi.
Oui, c'est un défi complètement dingue. Et je crois que seules des personnes comme Amandine, avec un mental assez exceptionnel, va nous surprendre. Et je vous donne rendez-vous dans 4 ans aux États-Unis pour voir, le premier athlète à être dans 2 disciplines aux mêmes Jeux Olympiques.
Il n'y aura pas de problème de calendrier et de préparation, parce que ça risque de coincer par moment.
Voilà, sûrement. Vous parlez dans l'année ou pendant les JO? D'une façon générale, ça, on est en train déjà de travailler par rapport au calendrier, à l'organisation. Ça va être un petit peu compliqué, c'est sûr. Mais on a 4 ans. Donc, on va faire ça petit à petit. Surtout, on va bien mettre tout sur la table et faire en sorte que pour le judo, pour le rugby, surtout pour Amandine.
Voilà, Amandine, bien sûr, et pas Amélie. Hein. Elle va la monter en puissance. Voilà, donc fou défi, on verra ça. Alors, justement, le Stade Français, ils ont fait une entente avec le PUC pour l'athlétisme.
Oui, récemment. Alors, effectivement, le Stade français
Pourquoi
est un de nos grands clubs quand même importants. À Paris, aujourd'hui, on a quand même pas mal de clubs, puisqu'on a 48 clubs d'athlétisme à Paris, au comité
Paris
de Paris.
À Paris
oui, oui, bien sûr. On a 48 clubs. Alors, des gros, des plus gros, des petits, pas des clubs énormes. Les plus gros étaient à 300 environ licences. Mais le fait que Stade français et le Paris Université Club, deux clubs emblématiques, se regroupent, donc ils sont déjà à plus de 500 licences, un petit peu plus de 500 licences maintenant. C'est intéressant parce que aujourd'hui on n'a pas un club qui ressort du lot, à part un très gros club de running, enfin en cross, qui est le Racing Multiathlon, qui est vraiment impressionnant.
Mais sur la j'ai reçu.
Oui.
Je l'ai reçu il y a deux saisons.
Voilà, et qui est maintenant le meilleur club de cross en France. Donc, cette opération qui vient de se monter, Stade français PUC, est vraiment intéressante.
Mais l'intérêt, c'était quoi?
Alors, l'intérêt, c'est de regrouper des forces. Vous savez, l'athlétisme, il y a 20 disciplines. Hein. Ouais. On va depuis le 100 mètres jusqu'au lancer de marteau. Certains en ont, certains n'en ont pas. Donc, aujourd'hui, il y a une problématique qui est très importante. Il faut le savoir, et on essaye de regrouper un peu pour essayer d'avoir une puissance de force par rapport aux élus. C'est qu'aujourd'hui, Paris, capitale de la France, n'a pas un stade d'athlétisme de compétition. Il n'y en a pas.
Charletti, non?
Charletti n'est pas un stade de compétition. Non, il y a uniquement une piste.
Il y a le meeting du mois de juin.
Il y a le meeting parce qu'il est monté spécialement pour le mois de juin. Ouais. Mais il n'y a qu'une piste et c'est tout. Il n'y a pas d'air de lancer. Ouais. Il n'y a pas de lancer. Il y a juste un peu de... Il y a la piste par elle-même et puis les sauts. Et encore, la perche n'est pas montée tout le temps. Donc, on n'a pas de stade d'athlétisme de compétition à Paris.
Ouais. Le Stade de France, c'est un stade occasionnel.
Qui n'a pas servi depuis la nuit des temps.
Si depuis les Jeux, exactement.
Le premier stade d'athlétisme de compétition aujourd'hui, il est à Villejuif.
Ah bon ?
Voilà, qui est le plus complet des stades, il est là. Donc aujourd'hui, on va être un petit peu une source, j'allais dire un peu une puissance pour pousser un petit peu à garder ce stade. Donc le fait que des présidents emblématiques comme le Stade français, en général, comme a parlé tout à l'heure la présidente, et le PUC, qui est quand même une histoire, hein, le Paris Université Club, c'est une grande histoire. Ben, on espère, on était en réunion ensemble la semaine dernière pour maintenant monter, on va dire, un cahier des charges pour pousser un petit peu à dire il nous faut ce stade.
Oui.
Et Stade français, PUC, n'oublions pas que le Stade français avait un stade mythique qui était Jean Bouin.
Oui, oui,
Jean Bouin.
Bah oui, mais on a enlevé la piste.
On a enlevé la piste, on a monté
nouveau stade, le nouveau stade actuel. Ouais.
Alors que Jean Bouin, il ne faut pas oublier.
Il y a eu des records du monde. Hein.
Mais c'était la première perche à 6 mètres. Boubka, au meeting de Jean Bouin, a passé au monde pour la première fois à 6 mètres.
Ah ouais.
Voilà, donc on se bat. On va se battre pour ça.
Et Colombes n'a plus de piste?
Colombes n'a plus de piste, c'est terminé, puisque depuis les JO, c'est maintenant un stade de hockey. Et donc, aujourd'hui, je vous dis, on n'a pas un stade de compétition d'athlétisme complet à Paris.
Oui, mais justement, les résultats qui sont très moyens, on disait très mitigés, ça ne va pas plaider quand même.
Ben non, ça ne va pas plaider, mais bon, le Stade français PUC vient de se mettre ensemble. Premier titre de champion de France hier. Philippine Delabing gagne le championnat de France de 5 km à Saint-Omer hier matin, la surprise générale. Donc, il y a du monde, il y a du potentiel, donc il faut le faire. D'autant plus qu'on aura aussi, si on termine sur les clubs parisiens, une quasi-disparition, c'est l'US Métro Transport qui va disparaître. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus le stade de la Croix de Bernie, qui était le stade mythique de l'US Métro, et donc qui est en vente et qui va être acheté vraisemblablement par la ville d'Antony. Et donc l'US Métro aujourd'hui, et qui est un club historique, quasi centenaire, va disparaître ou peut-être partir... Peut-être dans le 92, peut-être, mais enfin, voilà, c'est encore une histoire bien triste qui nous arrive.
Et je me demandais, quand vous regardez vers d'autres pays comme les États-Unis ou peut-être d'autres pays européens, sur les stades qu'il y a dans les grandes villes, est-ce qu'il y a des inspirations à aller prendre, des choses qu'on peut adapter, bien entendu, au modèle français? Et puis, sur Paris, je me posais la question, peut-être...
Bah, écoutez, la problématique de Paris aujourd'hui, si vous prenez sur des grandes capitales mondiales, c'est un problème de surface. On va à Londres, on va même à New York, en Allemagne, par exemple à Berlin, on a été au championnat du monde à Berlin, on a encore des grands parcs, on a des stades en plein milieu des parcs. Nous, on n'a quasiment rien. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il est interdit de faire un cross-country dans le bois de Boulogne, alors qu'on pourrait quand même le faire.
Il y avait la course du Figaro pourtant.
Il y a eu le cross du Figaro, qui était extraordinaire. Avant, maintenant, il ne faut plus aller nulle part. Donc tout ça, ça fait que... On n'a pas cette culture de garder des lieux de sport importants. Et puis, on sait très bien que la région Île-de-France, aujourd'hui, est la région la plus pauvre en équipement sportif. Hein, donc, on essaye. Et puis, dès qu'il y a un petit bout de terrain, il est accaparé soit par des constructions, soit par autre chose. On ne comprend pas pourquoi il faut laisser une aire de lancer de marteau avec une aire à 90 mètres. Hein, mais pas besoin de mettre ça. Ben si, il faudrait. Donc, on va se battre pour ça, pour retrouver ce stade. Peut-être Pershing qui pourrait faire, mais enfin, il est excentré. Il est quasiment à Joinville, donc c'est difficile. Et puis, on voit des pistes autour du périphérique, mais souvent, ce ne sont pas des pistes de 400 mètres. Et puis, entre nous, faire des compétitions en bordure du périph', je pense qu'il faut respirer quand même. Hein.
Ça me rappelle un peu, moi, quand je faisais de l'athlétisme, quand j'avais 14 ans, justement, le stade était au bord du périph' à Paris. Souvent, il y a ces stades-là qui sont vraiment, comme vous le dites, hein, autour du périphérique, mais en effet, on a besoin de respirer d'air. Parce que
absolument, absolument.
C'est capital.
Mais alors, comment font vos clubs?
Nos clubs, ils font ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, on essaye. Il y a une piste qui a été, quand on a détruit Jean-Bouin, par exemple, on a replacé une piste au milieu de Longchamp. Il y a une piste au milieu de Longchamp, mais enfin bon, c'est pas extraordinaire, mais il y a plus de grands lanceurs à Paris, par exemple, hein, parce que faut s'entraîner, quoi. Donc on a encore des aires de marteau à Joinville, à l'INSEP, mais bon, c'est sans plus, quoi, sans plus. Et donc aujourd'hui, on n'a pas dans l'élite nationale 1, 2, un club parisien.
Donc c'est ce qui explique peut-être les résultats très mitigés dont on parlait, aussi bien pour les Olympiques que pour les Paralympiques.
Voilà, par contre, effectivement, sur le running, sur la course à pied, on est très fort. Mm-hmm. Sur les Paralympiques, sur les Olympiques, c'était... j'ai dit tout à l'heure, on a essayé de... Il y a une telle surprise sur les 100 mètres, par exemple 100-200 mètres féminins, on n'aurait jamais pensé que la sprinteuse de Sainte-Lucie, cette petite île là-bas, ce confetti, allait gagner. C'est fantastique, quoi. Donc il faut avancer là-dessus. Ouais. Et puis les paras, on savait déjà au championnat du monde l'année dernière à Paris qu'on aurait du mal au JO. Hein.
Ça s'est confirmé. On y était, malheureusement, on pensait Guy... Antanon, trop optimiste.
Un petit peu optimiste. On a des bons athlètes, de très bons athlètes, qui d'ailleurs en même temps sont dans des clubs d'athlétisme.
Oui, bien sûr.
Parce que certains paras, ceux qui sont fauteuils, il n'y a rien à dire, mais certains paras sont dans des clubs d'athlètes, dans des compétitions. Un Kwaku qui est champion olympique à Tokyo, il est dans l'équipe interclub d'Anthony, parce qu'il a tout à fait le droit d'y être et il peut faire. Et Nantenin Keita a été plusieurs fois championne d'Île-de-France de saut en longueur.
Oui, alors on parlait du PEPS d'Amandine Béchard. Nantenin Keita, c'est le même profil.
C'est le même profil. Arnaud Assoumani, c'est pareil. Ils ont des pêches d'enfer, ils sont extraordinaires. Et là, on est en train de travailler sur une convention avec la Ligue régionale handisport pour qu'on puisse avancer, mais c'est pas facile par rapport aux entraînements et aux entraîneurs.
S'il vous manque des infrastructures de club, ça va être compliqué pour l'athlétisme. Dans les autres départements d'Île-de-France, ça se passe beaucoup mieux?
Oui, alors ça se passe beaucoup mieux dans les autres départements. S'il faut savoir, si je vous donne un exemple sur mon historique de dirigeant de la Ligue, puisque je vais finir mon dernier mandat après 20 ans de présidence, novembre 2024.
C'est bien.
En une quinzaine d'années, j'ai inauguré 3 stades. Cette année, j'en ai inauguré 10.
Ah, bien.
Entre l'année dernière et cette année, 10 stades. Des stades soit refaits ou construits. Ça a été l'arrivée JO. L'arrivée JO, certaines villes se sont vraiment investies. Je pense notamment à Saint-Germain-en-Laye qui avait signé avec les UKA, United Kingdom, les Anglais, pour qu'ils soient à Saint-Germain. Ils ont refait une piste magnifique, quasiment la même que Stade de France, pas la même couleur. Mais on a eu des investissements qui ont été faits. Les Américains ont investi très fort sur Aubonne et d'autres. Donc, on a des stades qui sont arrivés. Maintenant, il faut qu'on les utilise parce qu'on a une autre très très grosse problématique, c'est la problématique des pelouses synthétiques. Parce que si on n'a pas de lancer, on ne peut pas lancer sur du synthétique. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup de maires, etc., pour dire attendez, c'est plus facile d'avoir une synthétique. Hein. On n'a pas à attendre, on n'a pas à arroser, on n'a rien à faire. Ben oui, mais nous, on ne fait plus rien non plus dessus. Donc, ça aussi,
ah oui, ce qui arrange le foot, vous arrange pas vous.
Eh oui, oui, oui. Il y a eu quelques années, on a eu une grosse bagarre avec les Lusitanos de Saint-Maur parce qu'ils voulaient enlever la piste. Hein, même Michel Jazzy avait dit, s'ils enlèvent la piste, je viens avec une échelle et j'enlève mon nom sur la tribune. Et ça avait été chaud, chaud, chaud. Et au dernier moment, on a réussi à dire, on garde la piste à Saint-Maur, qui est un lieu mythique, quatre records du monde à Saint-Maur de Jazzy. On l'a gardé. Mais voilà, c'est pas facile. Et puis là, on a, alors si vous me permettez encore un petit peu, c'est qu'on a cette grosse bagarre de Charletti, hein, puisque le président du Paris Football Club, lui, ne voit qu'une chose, c'est faire un stade à l'anglaise avec on enlève la piste et on fait qu'un stade de foot. Donc il va à la mairie, et derrière, on se bat pour garder la piste de Charletti, qui est quasiment neuve, hein, parce qu'elle avait été faite pour les championnats d'Europe qui n'ont pas eu lieu en 2020. Donc. Elle est là, et si en plus on perdait alors qu'on vient de monter plus que Stade Français et qu'on n'avait même plus la piste de Charletti. Mais enfin bon, j'ai bon espoir, on a bon espoir quand même que le foot comprenne qu'il faut qu'ils aillent ailleurs qu'à Charletti.
Bah, je pense que c'est dans leur projet.
C'est dans leur projet, c'est dans leur projet.
De partir, donc là vous aurez un stade que pour vous. Quoi.
Bah, l'idéal évidemment ce serait de monter le stade d'athlétisme. Ouais. Si je vous raconte toute petite anecdote, parce qu'on nous a demandé de faire de l'athlé à Charletti. On l'a fait l'année dernière, on a fait les championnats d'Île-de-France de relais un soir, donc les relais depuis le 4x100 jusqu'au 4x1500. Alors, interdiction de marcher sur la pelouse. Hein, oh là là, ne marchez pas sur la pelouse. Alors, quand on a quand même 500 relayeurs qui sont là avec des jeunes, ils ont envie quand même de courir sur le stade. Donc, il a fallu se battre pour ça. Et au moment de la finale du relais 4x4, vers 22h15 à peu près, les jets d'eau sont mis en route.
Ah.
Donc, nos relayeurs ont pris la flotte pendant la course. Voilà, on m'a dit, ah bah oui, mais c'est comme ça, c'est pour le foot. Bon, voilà.
D'accord.
Sachant que j'ai cru comprendre, d'après une statistique de l'équipe, que la pelouse de Charletti est une des plus mauvaises de Ligue 2.
Oui, il y a eu des petits problèmes. Il y a eu des petits problèmes.
Des petits problèmes. Donc, tout ça, ça fait qu'effectivement, si on pouvait garder et le monter, ça va être notre objectif aujourd'hui. Et on a été avec une réunion avec le président Domenech la semaine dernière. Et on va se battre pour garder ce stade.
Est-ce que vous avez eu quand même un afflux de pratiquants, pratiquantes, malgré, on l'a dit, ces résultats plutôt mitigés ?
Effectivement, on s'est dit médaille, pas médaille, ça va, on va se planter. Ben non, on a un afflux considérable aujourd'hui.
L'effet jeu a joué même pour votre
comme
sport.
Comme je disais tout à l'heure, 70 000 personnes tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir. Des résultats extraordinaires, des records du monde, des records d'Europe, des records olympiques. Si bien qu'aujourd'hui, bon, la Ligue d'Île-de-France avait terminé au mois d'août à 52 700 licenciés. Pour votre info, la deuxième ligue Auvergne-Rhône-Alpes est à 33 000. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire quand même notre grosseur au-dessus des autres ligues. Et à date à hier, on est à 4 000 licences au-dessus de l'année dernière. Donc, on est aujourd'hui à 71 ou 72% de notre total. Donc, on va vraisemblablement, on pense, finir raisonnablement. On va battre notre record, c'est sûr, et on devrait frôler les 55 000 licences. Mmh. Et cet afflux de 4 000 licenciés depuis le mois de septembre, c'est beaucoup de licences nouvelles.
D'accord,
ce sont des nouveaux.
C'est ce que j'allais dire, c'est des jeunes qui arrivent. Alors,
des jeunes, y compris
garçons et filles.
Garçons et filles. Alors nous, on est quasiment à 50-50 hein, sur hommes et femmes en athlétisme. Mais aujourd'hui, on a des jeunes qui arrivent, donc de très jeunes. Puisqu'on a monté des écoles baby athlées, etc. Mais on se rend compte que là, on a des cadets, des juniors qui arrivent. Mm-hmm. Alors qu'on sait que c'est quand même les tranches d'âge les plus difficiles. Hein. On a envie de faire autre chose. Mm-hmm. Mais ça vient. Et là, on est vraiment très, très content de ce qui nous arrive de plus 4000 licences de date à date à vendredi soir.
Oui. C'est un sport qui est cher. Non, pas cher. Il n'y a que les points d'athlétisme.
Non, alors,
achetés,
si vous voulez, il y a. Aujourd'hui,
c'est
si
un
vous
des
voulez,
sports les moins chers. Hein, par rapport
c'est,
aussi,
c'est pas très cher. Hein, la licence, si vous voulez, la licence pure et dure, c'est-à-dire il y a une part de la fédération, une part de la ligue et une part du comité départemental pour faire vivre les trois entités, elle est de 77 euros. Après, le club, il prend ce qu'il veut derrière, c'est-à-dire la cotisation du club. Donc aujourd'hui, ça peut, la moyenne, 180-200 euros à peu près la licence à l'année. On a fait un calcul, vous avez, assez spectaculaire. Le nombre d'entraînements qu'on peut faire en athlé sur un club, etc., cela vous met une séance d'entraînement un soir à 10 centimes.
Ouais.
10 centimes la séance. Alors, si on va une soirée de temps en temps dans un fitness ou dans un truc, combien ça coûte ? Voilà, avec des entraîneurs diplômés, des entraîneurs formés, etc. C'est vraiment, c'est pas cher. Après, l'équipement, bah, le maillot, il est fourni, oui, c'est pas... la paire de pointes. À part qu'aujourd'hui, tout le monde veut la dernière chaussure carbone qui coûte cher, soi-disant que ça va faire
150 euros.
Ouais, soi-disant que ça fait courir plus vite, c'est pas vrai parce qu'il faut savoir courir avec. Non, c'est pas cher aujourd'hui. Je pense qu'à Paris, ça doit tourner aux alentours de 200 à peu près, là, 200-250 la cotisation, puisque dans la cotisation, il y a la vie du club et la vie de la fédération et des institutions derrière. Quoi.
Et quand on commence le sport, alors, comment ça se passe? On se spécialise, on choisit le sprint, on choisit le fond, on choisit les concours, les sauts?
Alors, si vous voulez, nous, on n'a pas de...
On fait un peu tout au début, puis après...
Voilà, on fait un peu tout au début, on n'a pas de spécialité avant la catégorie cadet, c'est-à-dire U16. Il n'y a pas de spécialité. Il y a un championnat de France minime qui s'appelle les points d'or où ils doivent faire 3 ou 4 spécialités, 3 ou 4 disciplines. Ils sont obligés de faire un lancer, un saut, une course. On ne spécialise pas. On est spécialisé à partir de cadets. Donc là, cadets, on a des championnats de France de perche, de longueur, de poids, de marteau et tout. Donc voilà, c'est là où c'est spécialisé. Là où c'est un petit peu difficile pour nous, les clubs d'athlètes, c'est que si on prend par exemple un sport co, vous avez des entraîneurs, ben on est entraîneur handball, on est entraîneur foot. Nous, on a des entraîneurs de saut, des entraîneurs de demi-fond, des entraîneurs de lancer. Et il faut essayer de trouver toutes ces spécialités ensemble. Vous voyez? Et ça, c'est pas du tout évident à faire. Et c'est vrai que de ce côté-là, c'est toujours un petit peu difficile.
Alors, ce qui marche bien aujourd'hui, c'est les courses de fond quand même. Hein. Les semi-marathons, les marathons, les trails. Même si c'est, j'allais dire, deux disciplines un petit peu différentes quand même.
Oui, alors,
c'est
évidemment,
deux mots différents, quoi.
Nous, si vous voulez, dans la course à pied, il y a la course sur route, hein, ce qu'on appelle la course sur route, la course hors stade.
Ouais, ça marche super bien.
Et la course
bien.
Hors stade, surtout, on est le seul sport aujourd'hui à faire un sport de haute compétition avec... en acceptant les non-licenciés.
Oui, tout le monde mélangé.
Non-licenciés. Ouais, donc, effectivement, si vous prenez le marathon de Paris, je ne sais pas combien on est maintenant, 50, 60 000, je ne sais pas, à peu près. Là, il y a à peine quelques centaines, allez, 200, 300 licenciés. Tout le reste, les autres milliers, ce sont des non-licenciés. Enfin, non-licenciés, fédération d'athlétisme, bien sûr. Donc, ces gens-là, on les prend avec un certificat médical, ils peuvent courir. Donc, effectivement, si on récupérait tout ça en licence, ce serait extraordinaire. Mais ça, c'est là. Et puis, ce qui fait l'engouement, si vous voulez, par rapport à, si on prend, par exemple, un marathon de Paris ou un truc comme ça, c'est qu'on est le seul sport aujourd'hui, même si vous êtes dans le SAS numéro je ne sais pas combien, vous partez dans la même course qu'un recordman champion du monde, etc. Vous pouvez jouer au foot, vous n'irez jamais jouer au Parc des Princes.
Non.
Ben nous, on peut prendre le départ de n'importe quelle course avec un grand champion. Et ça, puis on peut les croiser, on peut les faire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, je pense qu'effectivement, il ne faut pas oublier que sur le Covid, on était le seul sport à être autorisé. Hein, le fameux kilomètre autour du domicile, c'était quelque chose où beaucoup de gens se sont mis à courir.
Oui.
En disant, mais on peut faire que ça.
Est-ce qu'il continue aujourd'hui?
Eh oui, ça continue.
Ouais.
Nous, on est passé là, il y a quelques jours. Les bureaux de la Ligue sont à côté de Montmartre. Et du coup, on avait un petit peu de temps, on est passé. Le nombre de gens qui sont en train de courir à monter les escaliers à Montmartre, le soir. Des entraînements d'entraînement là-bas.
C'est du beau cardio.
C'est fantastique, c'est du cardio, c'est extraordinaire.
Ça, c'est du beau cardio, ça.
Donc,
on a
toutes ces courses maintenant qui font... Ouais. Donc, il y a les courses sur route, comme vous dites. Hein. Il y a le trail, les courses trail, nature. Ouais. Vous avez maintenant des trails, les bad night en ville. Donc, ça, c'est aussi assez fantastique. Et puis, bon, ben, c'est vrai que Paris a aujourd'hui un beau potentiel de course.
Oui, parce que Paris, il y a, je crois, le 10 km, le 20 km, le semi, le marathon, il y a tout. Il y a des corridas un petit peu partout.
Oui, oui. Ouais. Si on commence aujourd'hui le 10 km. Bon, vous avez le 10 km Adidas, sans nommer, etc. Voilà.
Dans il y a la course des femmes, le parisienne,
Le semi-marathon de Paris qui a rempli, là, ils sont à je ne sais plus combien, ils l'ont rempli en 3 jours. Hein, pour le mois de mars. Hein.
Ouais.
Il est rempli, c'est plein. Le marathon, bien sûr, les 20 km de Paris, le mythique Paris-Versailles,
la
Côte des Gardes.
Bien sûr.
Voilà, tout ça, ça fait qu'on a encore quand même la moindre course à Paris. On arrive à faire un 1000 coureurs, mais ce sont vraiment des gens qui ont envie de... Enfin, il y a un petit peu de haute compétition devant, mais après, c'est les gens qui ont envie de courir.
Oui, puis, est-ce que ça ne correspond pas aussi un petit peu à l'air du temps? C'est-à-dire, je cours quand j'en ai envie, sans prendre de licence.
Bah, écoutez, oui, aujourd'hui...
Comme ça, je suis libre. Et puis,
vous mettez vos chaussures, ouais, et puis vous descendez, et puis vous courez.
Voilà, c'est ça.
Si vous allez faire un sport co, il faut peut-être déjà trouver une équipe. Tout seul, ça ne marche pas. Donc, et puis, y a pas, comme vous dites tout à l'heure, il n'y a pas d'équipement, hein, ou très peu. Enfin, par évidemment les tenues, mais après... C'est suffit non, de passer au bois de Vincennes ou au bois de Boulogne un dimanche matin, c'est énorme les pelotons de gens qui se retrouvent encore.
Non, et puis il y a toute forme de compétition. Il y a la compétition, et puis il y a le défi contre soi aussi.
Il y a ça, voilà. Oui, donc il y a les deux choses aujourd'hui, c'est qu'on s'entraîne pour essayer de battre son corps sur un marathon par exemple ou sur un semi-marathon, et là on s'entraîne fort. Et puis le trail où là on va un petit peu s'entraîner, mais on va y aller pour le finir. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de choses, c'est un paysage et tout un tas de choses. Et ça, c'est une autre façon de courir qui est assez extraordinaire, quoi. Et puis, alors, il y a une autre chose qui va arriver d'ailleurs ce week-end, hein, c'est l'Equidène.
Oui.
L'Equidène, ce fameux marathon en relais.
À la Tour Eiffel, c'est ça?
Non. L'Equidène, c'est le marathon en relais. Six relayeurs.
Parce qu'il y a une course aussi, on monte à la Tour Eiffel.
Alors, ça y est, pour le moment, ils ont du mal à la réorganiser, celle-là.
D'accord. Okay.
Mais l'Equidène, on a plus de 1000 équipes ce week-end, donc des équipes de 6 coureurs. Et donc ils vont se relayer pour faire ce fameux marathon en relais. Et là on a à peu près on doit avoir 300 équipes d'entreprises qui viennent, parce que c'est un team building intéressant pour les entreprises de mettre des équipes là-dessus, quoi.
Oui. Et sinon, les épreuves les plus importantes pour vous, c'est quoi?
C'est les plus importantes. Bah, écoutez, d'abord, c'est les championnats. On va encore sur les grandes choses qui sont les... On prépare les championnats. Nous, on est une ligue de compétition, donc c'est important. C'est le cross encore. C'est le cross-country, il ne faut pas l'oublier. Tous les athlètes, n'importe quel sport, ils ont commencé par le cross-country dans les écoles. Et ça, c'est quelque chose qui restera toujours. Courir les enfants, les plus jeunes, les petits, les plus grands... On regrette évidemment des disparitions, Cross du Figaro, comme on parlait tout à l'heure. Il y en avait d'autres. Hein. On se souvient qu'il y avait le Cross de l'équipe, il y avait le Cross. Il y en avait d'autres. Mais voilà, c'est la compétition la plus importante aujourd'hui, c'est le championnat de France de Cross. Hein.
Alors peut-être un jour sur Paris ou dans l'Île-de-France.
Ah ben non, mais on a.
Moi j'en ai suivi.
Là, sur les dernières années,
sur
le cross-country, il y a 2 ans, on était au Mureau, dans l'île de loisirs des Mureaux. On
a 50 ans en Yvelines, il y a très longtemps.
50 ans en Yvelines. On a fait 2 ans les Mureaux, là. On a la chance d'avoir des poumons verts avec les îles de loisirs. Et alors, on a aussi autre chose. Maintenant, si on parle hors compétition, le développement énorme, c'est l'athléforme santé et la marche nordique. La marche nordique, aujourd'hui, la compétence marche nordique a été donnée à la Fédération française d'athlétisme. À charge pour nous d'organiser des compétitions de marche nordique. Hein. Il y a un championnat de France, maintenant, de marche nordique. Et là, là où jamais, il y a encore quelques années, moins de 10 ans, vous ne voyez jamais quelqu'un marcher avec des bâtons.
Ouais.
Et là, maintenant, vous allez dans les parcs et tout, et vous voyez les gens avec les fameux bâtons de marche nordique. Pour la santé, c'est super. Pour la posture également. Et on a maintenant, nous, un coach, un cadre technique spécialisé à Athléforme Santé à la Ligue d'Île-de-France. Et on a une commission Athléforme Santé qui a signé un contrat avec la Salpêtrière, avec l'hôpital Foch à Suresnes, pour travailler. Après, on commence le sport sur ordonnance également.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais...
le sport sur ordonnance. Exactement. Alors, c'est un petit... Ça a du mal à démarrer. Tout le monde est d'accord. Les médecins sont d'accord. Les spécialistes sont d'accord. Nous, on est d'accord. Faut emmener l'agence régionale de santé là-dessus.
Peut-être la communication aussi dessus, si je peux me permettre.
Oui.
Est-ce que les gens sont assez informés de ça? Parce que moi, je m'étais renseignée là-dessus, mais... Est-ce que les médecins peuvent prescrire ça, en fait,
et certains peuvent le prescrire, bien sûr, mais le problème, c'est derrière, il y a une prescription, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à l'assurance maladie? Qu'est-ce qui se passe, tout ça? C'est encore très flou là-dedans. Donc, évidemment,
ça que je me posais comme question.
On a des coachs athlé santé dans les clubs, donc on peut le faire. Mm. On peut le faire. Maintenant, les clubs se développent bien là-dessus. Moi, personnellement, je suis dans les clubs de l'Essonne sur 160 licenciés. J'ai une bonne cinquantaine de gens qui sont des licenciés marche nordique.
Oui.
Vous voyez ?
Et la marche sportive en elle-même, celle que pratiquait Johan Diniz ?
Alors, la marche sportive, alors,
c'est
au niveau compétitif, on a un petit peu de mal en région parisienne.
C'est compliqué.
À part qu'on a quand même le numéro 1 français d'actuel, Aurélien Quignon, qui a fait 9e au JO quand même, hein, sur son épreuve, et qui est vraiment notre fer de lance. Là aussi, c'est pas facile. Alors, on va organiser le championnat de France de marche le 29 mars au Mureau, sur l'île de Loisirs. Ça va s'appeler Festimarche. Le samedi, ce sera les championnats de France de marche nordique. Le dimanche, les championnats de France de course de route. Mmh. Donc, on va tout regrouper ensemble pour faire quelque chose de bien. Voilà. Mais la marche, aujourd'hui, c'est encore... on commence à le lancer dans les petites catégories. Mais c'est vrai qu'un jeune qui dit « je vais faire de la marche », on ne les trouve pas, ce n'est pas toujours évident. Et puis, il y a aussi ce petit aspect technique qui est toujours un peu nébuleux. Est-ce que j'ai la jambe tendue? Est-ce que j'ai le... Donc, ce n'est pas, notre meilleur créneau, malheureusement, en Île-de-France aujourd'hui. Mais on devrait y arriver. Enfin, on avance. Mais ce n'est pas facile, cette marche en digue, même si elle est aux interclubs. Donc, on est obligé d'avoir des marcheurs aux interclubs. Donc,
alors, justement, tu vas nous donner le journal des sports.
Bah, on commence ce journal des sports, Philippe, avec le top 14 et une victoire écrasante du Stade français. Enfin, j'ai envie de dire, 36-6 contre l'ASM Clermont. Le Racing 92 l'emporte 30-23 contre Perpignan. Au classement, le Stade français sort de la zone rouge et est 12e avec 24 points. Et le Racing 92 est 8e avec 18 points. Le Stade toulousain est premier avec 29 points. Bordeaux-Bègles, 2e, 28 points. L'Aviron Bayonnais et le Stade Rochelais, 3e, 22 points. Et le RC Toulon, 5e, 19 points. En basket maintenant, défaite du Paris Basket contre Cholet 90-80. Les Parisiens n'ont pas su maintenir la cadence après leur victoire contre Monaco 87-80 en Euroleague jeudi. Nanterre 92 remporte largement son match contre Chalon-sur-Saône 91-70. Les Nanterrois sont 12e. Paris était 6e à égalité de points avec Bourg-en-Bresse, Saint-Quentin et Monaco. Lyon-Villeurbanne 1er et Cholet 2e. Handball, nouvelle victoire du PSG 34-30 contre Istres. Les Parisiens sont leaders du championnat avec 16 points devant Toulouse et Nantes. Les Nantais justement qui l'ont emporté contre Créteil 38-31 et Ivry obtient enfin son premier point de la saison après son match nul contre Limoges 33-33. Les deux clubs du Val-de-Marne sont derniers du classement. Je vous rappelle également la victoire du PSG en Ligue des Champions cette semaine contre Berlin 40-38. Les Parisiens sont deuxièmes du classement avec Vesprem les premiers. Les Nantais aussi ont gagné contre Zagreb 32-29. Ils sont également deuxièmes de leur tableau derrière Barcelone. En volleyball, les Parisiens ont gagné 3-0 sur le terrain de Tourcoing et le Plessis-Robinson a perdu 3-1 contre Nice. Au classement, le club des Hauts-de-Seine est actuellement dernier et les Parisiens sont 9e à égalité de points avec Toulouse 8e. Chez les femmes, Levallois-Paris a perdu son match du week-end contre Mulhouse, 3-1. Au classement, Nantes est premier avec 17 points, Mulhouse 2e avec 14 points, Nancy 3e avec 13 points, Pays d'Aix 4e avec 12 points et Levallois-Paris 5e avec 10 points. On passe en Formule 1 maintenant, Philippe, avec les résultats du Grand Prix du Mexique, avec la victoire de Carlos Sainz et le podium de Charles Leclerc. Lando Norris pour McLaren finit 2e, Pierre Gasly pour Alpine termine 10e et Esteban Ocon 13e. Au classement des constructeurs, Ferrari passe devant Red Bull et devient dauphin de McLaren. Alpine pointe à la 9e place. En moto se déroulait le Grand Prix de Thaïlande et c'est une nouvelle fois l'Italien Francesco Bagnaia qui termine premier. Jorge Martin et Pedro Acosta complètent le podium. Juan Zarco termine 8e et Fabio Quartararo 16e. Au classement des constructeurs, Ducati est leader et devrait vraisemblablement remporter ce championnat. En tennis maintenant, et la belle victoire de Mpechi Péricard, 2-0 contre l'Américain Ben Shelton en finale de l'ATP de Bâle. Victoire en 2-7, donc 6-4, 7-6. Rappel également du début ce lundi à Bercy.
Oui, c'est l'événement de la semaine. Hein.
C'est ça, de la Rolex Paris Master, avec notamment dans quelques minutes à 20h30 le Français Adrien Manarino qui affronte l'Américain 12e mondial Tommy Paul. Et puis, grosse sensation en tennis de table, Philippe, puisque Félix Lebrun remporte le WTT champion chez lui à Montpellier. Il entre à 18 ans dans l'histoire du tennis de table français. Il vient à bout du japonais Tomokazu Arimoto en 5 manches. Jamais un Français n'avait gagné un tournoi de ce niveau. Donc, c'est dire l'exploit de Félix Lebrun, qui a battu en plus son frère. On finit
en
quart de finale, c'est ça. On finit ce journal des sports avec le ski alpin, bien sûr. Ça va faire plaisir à Vanessa.
Oui, c'était le début de la saison. On en a parlé la semaine dernière. Hein, à Solden,
et les
en Autriche.
Les premiers résultats, justement, des championnats du monde en Autriche. Chez les femmes, c'est l'Italienne Federica Brignone qui finit première en devançant la Néo-Zélandaise Alice Robinson et l'Autrichienne Julia Scheib. Seule Française du top 20, Clara Dires, 19e. Chez les hommes, joli triplé pour la Norvège. Incroyable, Stine Olsen, Christofferson et McGrath sont tous les trois sur le podium. Seul Français du top 20, Thibaut Favreau, 15e.
Oui. Et Alexandre, il y avait aussi le Skate Canada, un grand prix de patinage artistique. Et le couple Lopareva-Brissot s'est classé 3e, donc un bon point puisqu'ils auront un deuxième grand prix à disputer. Et pour se qualifier en finale du Grand Prix à Grenoble, début décembre.
Voilà, elle aime tellement le patinage artistique, elle essaie toujours de glisser un petit bout, mais c'est bien. Bon, alors dans votre sport, cet héritage, comment ça se passe? Comment d'abord, vous avez vécu ces Jeux?
Alors, comment on a vécu ces Jeux? On les a vécus à la fois, quand tout est bien parti, ça allait bien, ça a été un petit peu difficile au départ. Le bébé se présentait très mal avec des personnes au Cojo qui pensaient avoir la science infuse, et alors que nous, on avait à placer 300 juges sur le Stade de France, etc., qu'on avait eu une grande réussite à Paris 2003 au championnat du monde, et là, on voulait un petit peu nous montrer comment il fallait faire. Donc, ça a été un petit peu difficile au départ. Après, évidemment, tout s'est mis en place comme il fallait. Et on a vécu un très, très grand moment d'athlétisme. Le Stade de France a été plein dès la première matinée. Et ce qui ne s'était jamais vu dans n'importe quel championnat mondial ou JO, le premier jour, premier matin, le décathlon, le stade était plein. Et ça a été comme ça jusqu'au bout. Plus une ambiance extraordinaire sur les courses pour tous, le marathon pour tous, kilomètres.
Grand succès populaire.
Grand succès populaire, ce qui fait, on pourra en reparler, mais évidemment, la force de l'athlétisme, c'est que nous prenons aussi les non-licenciés dans les courses, etc. Et ça a été vraiment un très, très grand moment.
Oui. Alors, les résultats mi-figue, mi-raisin, aussi bien au niveau de l'athlétisme que du para-athlétisme.
Oui.
Les
résultats mi-figue, mi-raisin, effectivement...
décevant. Hein.
On ne peut pas dire décevant. On va dire qu'on est sur le premier sport olympique, comme on l'a dit en présentation. Oui. Il faut savoir que lorsque vous regardez quelques sports olympiques, je pensais par exemple au beach, un peu le rugby à 7, etc., vous avez 5-6 nations qui peuvent prétendre à 3 médailles. Mm-hmm. En athlétisme, il y a 42 nations qui ont eu une médaille en athlétisme au Stade de France. Donc, on est le premier sport universel avec des choses extraordinaires. Personne n'aurait parié un centime sur le triplé du javelot avec Pakistan, Inde et Grenade, alors qu'on attendait les Finlandais, les pays de l'Est, etc. Donc, on a un sport tellement universel que, effectivement, après, il faut faire sa place. Mm-hmm. Et lorsque vous avez une athlète au 3000 type qui fait 4e en battant le record d'Europe, où Jimmy Gressier sur 10 000 mètres qui bat le record de France en étant loin du podium, c'est là qu'on voit un niveau extraordinaire. Donc aujourd'hui, la fédération, on a une politique de préparation de jeunes, on a d'excellents résultats sur les médailles, sur les championnats du monde, cadets, juniors et championnats d'Europe. Et donc, on sait qu'on est en train de semer de bonnes graines pour l'avenir.
D'accord. Très bien. Bon, on a un point foot chaque fin d'émission, donc on va le faire. Alors bon, on va essayer de joindre notre ami Stéphane. Sinon, c'est Alexandre qui va donc s'y coller, comme on dit, en termes journalistiques. Alexandre, il y a une grande soirée, c'est le Ballon d'Or ce soir. C'est peut-être pour ça que Stéphane est donc mobilisé. C'est un petit peu, la bouteille à l'angle ce soir. Hein. Ça sera, quoi qu'il arrive, un Ballon d'Or 2024 au rabais.
Oui, absolument. On a eu des grosses nouvelles. Une journée vraiment chamboulée aujourd'hui. On annonçait le Brésilien Vinicius Junior qui devait remporter le Ballon d'Or sans trop de contestation. Puis au final, apparemment, c'est Rodri, le milieu de terrain Manchester City, qui va être lauréat.
Bon, il y avait Yamal aussi qui pouvait le faire. Bellingham, Carabal, bref...
Ils ont donné le top 10 d'ailleurs.
Oui.
Donc Toni Kroos est dedans, Erling Haaland, Kylian Mbappé bien sûr, Lamine Yamal justement, Vinicius et Rodri aussi, Carvajal que tu disais hors antenne, que tu voyais bien Carvajal aussi gagner.
Moi j'aurais voté pour lui, mais enfin bon.
C'est lui qui remplit les critères, comme tu as dit. Il a fait une saison incroyable avec sa sélection, avec son club, donc voilà.
Bon, on va quand même revenir un petit peu sur les matchs de Coupe d'Europe de cette semaine. Hein. Donc, 2 victoires, 2 nuls en Ligue des Champions. Monaco qui a écrasé l'Étoile Rouge de Belgrade 5-1. Et puis Lille qui continue sa bonne série en s'imposant donc face à l'Atlético de Madrid 3-1. Et ce, quelques semaines après sa victoire face au Real. Et puis 2 nuls, alors un plutôt positif. Brest devant les Verkusen 1 partout. Et un très décevant, c'est le Paris Saint-Germain devant Eindhoven 1 partout. Le PSG qui a raté beaucoup trop d'occasions.
Absolument. Moi, j'ai sous mes yeux la fiche de statistiques. 26 tirs pour Paris, 61% de possession, 2,43 d'expected goals. Moi, j'ai envie de faire l'avocat du diable de Luis Enrique. C'est pas lui qui est sur le terrain et qui loupe des actions à 6 mètres. Donc, on a beaucoup reproché à Dembélé de faire cette erreur-là. Il l'a fait à chaque fois. Donc, Donc voilà, c'est normal qu'au final, il y ait un partout. C'est justifié. Puis le PSV Eindhoven est quand même le champion en titre des Pays-Bas. Donc c'est pas non plus surprenant, ouais, enfin, j'ai envie de dire.
Même,
non, c'est
même,
pas surprenant, même, franchement, ça m'a pas surpris.
Quand même.
Mais
c'est pas,
Paris
c'est
est mal embarqué.
Pas un ogre européen quand même. Hein,
Paris est mal embarqué parce qu'il y a City, il y a l'Atlético
Madrid
à venir.
Donc, ouais. Alors Monaco est 4e, Brest 5e avec 7 points. Ils sont à 2 longueurs donc, d'Aston Villa et Liverpool qui, eux, ont 9 points, ces deux équipes. Lille est 15e avec 6 points et le Paris Saint-Germain est 19e avec 4 points. Voilà.
Absolument. Et puis, puis le FC Barcelone aussi qui a cartonné 4-1 avec triplé de Rafinha après la défaite justement contre Monaco en première journée. Donc les Catalans sont bien repris avec 2 victoires d'affilée.
Et puis le Real qui s'impose à l'issue d'un match un peu fou, quoi. 5-2
comme
devant Dortmund.
Hein, ouais. Et puis triplé de Vinicius. C'est là justement on pensait que les débats étaient enterrés pour le Ballon d'Or. Triplé de Vinicius en une mi-temps, 5-2 victoire pour le Real Madrid.
Alors par contre, jeudi noir pour nos clubs en Ligue Europa, puisque Nice a été battu par Ferencvaros 1-0. Lyon, là aussi, comme le PSG a raté beaucoup trop d'occasions, a été battu par les Turcs du Beşiktaş 1-0. Lyon est 10e avec 6 points, Nice 32e avec 1 point. Ça va être très compliqué pour les Niçois. Lyon, bon, ça peut le faire.
Oui, mais c'est décevant quand même pour Lyon, parce qu'un match maîtrisé de bout en bout. Lacazette qui ne fait pas un gros match, mais Malik Fofana, Ryan Cherki, Ben Rama qui font une bonne rencontre. Et au final, voilà, ils perdent 1-0 contre le Beşiktaş qui n'a rien proposé et qui se permet en plus de les chambrer. Et puis oui, comme tu disais, Nice qui perd à Ferencvaros, c'est les fameux jeudis noirs. Hein. Là, c'est vraiment...
deux
défaites.
On se
déplace dans des pays de l'Est et on perd... On perd en plus Ferencvaros qui a fait expulser un joueur de Nice. Donc ils ont terminé à 10 contre 11, les Niçois. Donc voilà, c'est une semaine pas très positive pour les clubs français en Ligue Europa.
Allez, on va enchaîner avec la 9e journée de Ligue 1 où il y a eu quand même 29 buts. Hein. Ça avait commencé donc par la victoire triste ou nette malgré tout de Rennes devant le Havre 1-0. Victoire en danger devant Saint-Etienne 4-2. Mine de rien, c'était un match plutôt sympa.
Absolument.
Entre ces deux mal classés. Brest qui va gagner à Reims 2-1. Lille qui s'impose sur la fin dans le derby nord contre Lens 2-0. Nul décevant encore pour Lyon face à Auxerre 2-2. Le derby du Sud qui tourne à l'avantage de Nice qui a battu Monaco 2-1. Strasbourg qui se refait une petite santé en battant Nantes 3-1. Et puis Toulouse qui enfonce encore un peu plus Montpellier. Hein, le Montpellier de Jean-Louis Gasset, nouvellement entraîneur. Toulouse qui s'impose 3-0. Et puis hier, le Classico, on attendait beaucoup mieux. Et le Classico, donc, qui a vu la nette victoire du PSG sur Marseille 3-0. Marseille qui n'a pas existé.
Absolument, on en parlera plus en longueur dans l'émission avec Eladji au bout du foot tout à l'heure. Mmh. Mais un classique très très décevant. Très décevant à l'image de Le Tessier, qui, je l'ai vu, a eu la note de 2 dans le journal L'Équipe.
Ouais.
Ah, on a Stéphane peut-être.
Oui, Stéphane, bonsoir. Stéphane, bonsoir.
Oui,
Stéphane.
Ouais, Philippe, bonsoir à tous.
Ouais, excuse-moi, on a commencé un petit peu tôt parce qu'on n'arrivait pas à t'avoir. Voilà. Donc, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur le Paris Saint-Germain, qui est en tête du championnat avec 23 points devant Monaco, deuxième 20 points. Troisième, Marseille et Lille, 17. Et cinquième, Lens, Reims et Lyon, 14 points. Et en bas de tableau, donc Angers, Saint-Etienne, 7 points. 19e, 17e, Le Havre, 6 points. Et 18e, Montpellier, 4 points. On parlait de cette journée de championnat, très prolifique, 29 buts. Par contre, un classico très décevant.
Ouais, un classico très décevant. Alors, certains vont dire que c'est de la faute de l'arbitre, d'autres vont dire que c'est de la faute des joueurs, c'est un peu des deux. Peut-être un peu plus quand même de la faute des joueurs, je pense. Et puis voilà, c'est incompréhensible. Pour moi, c'est incompréhensible de voir toute la semaine. C'est vrai que c'est surtout les supporters qu'on a entendu, mais même les joueurs, oui, je pense qu'on va. Cette saison, on va jouer là le titre avec Marseille, machin et tout, de voir ce premier quart d'heure où ils sont complètement absents. Et moi, tant qu'on ne me le dira pas, par exemple, je ne croirais pas que Greenwood n'était pas malade, qu'il n'a pas fait une intoxication alimentaire et tout. Je n'arrive pas à concevoir comment Greenwood peut faire cette mi-temps-là, par exemple. Quoi.
En tout cas, c'est vrai qu'on s'attendait à un classico beaucoup plus équilibré par rapport à certaines années. Et ça n'a pas du tout été.
Ouais, tout le monde disait que c'était la semaine, l'année ou jamais pour l'OM.
Ouais.
Et il y en a qu'un qui m'a. C'est une petite anecdote, Philippe. J'ai fait un article dans l'après-midi sur les pronostics, un peu des personnalités, des journalistes, ce qu'ils disaient un peu par là. J'ai eu Jacques Vendroux, il m'a dit, il y a eu un classico hier, il y a eu 4-0 pour le Barça, il y a un autre classico ce soir, ça va faire exactement la même chose pour le PSG.
Mais il avait raison, parce que c'est vrai que là aussi, dans le classico espagnol, 4-0 pour Barcelone à Madrid, il n'y a pas eu photo. Hein.
Pas eu photo
non,
du tout.
Bah non, moi je suis même étonné, j'ai vu... J'ai zappé peut-être une vingtaine de minutes en deuxième mi-temps, mais sinon j'ai vu la première. Je suis même étonné d'apprendre aujourd'hui, d'entendre dire que le Real Madrid était plutôt devant, au point, entre guillemets, en première période. Donc non, bah c'est pareil, ils n'ont pas existé non plus, parce que le Real Madrid a un jeu cette saison, n'a pas encore réussi à mettre son jeu en place. Et compte uniquement, on l'a vu par exemple contre Dortmund en Ligue des Champions, hein, où ça n'allait pas du tout. Il a fallu un triplé de Vinicius pour renverser le match. Et là, à partir du moment où les trois joueurs censés porter le Madrid vers le haut, Bellingham, Vinicius et Mbappé, n'étaient absolument pas dans le coup, hein, pour différentes raisons, c'est vrai qu'à ce moment-là, le Real, il disparaît complètement. Quoi.
Oui. Alors, on te demandera ton sentiment tout à l'heure sur le Ballon d'Or, puisqu'on avait commencé avec Alexandre. La Ligue 2, donc 10e journée, là aussi, autre club parisien en tête, le Paris FC, qui a battu Grenoble 2-1, victoire de Dunkerque devant le Restart 2-0. Défait important, c'est Rodez qui, grâce à son gardien, arrache un nul donc contre Lorient 3-3.
Incroyable.
Ouais. Ouais. Metz qui bat Guingamp 1-0. Et match arrêté dans le derby corse entre Ajaccio et Bastia. Donc le Paris FC qui poursuit son bonhomme de chemin, en tête avec 24 points, devant Lorient 2e 20 points, 3e Dunkerque 19. Et il y a ensuite Metz, Annecy, Amiens avec 18 points, alors qu'en bas de tableau, donc, c'est très serré. Ajaccio 12e avec 11 points, 13e Rodez 10 points, 14e Clermont 9 points, et il y a 15e Caen, Red Star Martigues 8 points, et 18e 3, 7 points. Donc c'est très serré en bas du classement. Hein.
Ouais, c'est non seulement très serré, mais en plus très étonnant. On peut un peu s'attendre à tout, parce que quand on voit effectivement... Rodez, c'est un peu un coup du sort qui fait finalement 3-3 contre Lorient. Quand on voit aussi 3 qui, même si Caen est mal au point, 3 qui va gagner à Caen, je crois que c'était à Caen le match, 3 qui va gagner à Caen, ça paraît assez incroyable aussi. Quand on voit Dunkerque 3e qui est monté il y a 2 ans, quoi, il y a un an, et en clair, et qui a eu un peu de mal à se maintenir la saison dernière, quoi, ils ont déjà bien fini, et ils repartent sur la même lancée. Donc c'est vrai que c'est un championnat assez incroyable. Je pense que le Paris FC est au-dessus. Le Paris FC est au-dessus, mais sinon après, derrière, c'est vrai qu'on peut s'attendre à tout. Quoi.
Alors, un petit mot du National. Il y avait une journée de championnat donc cette semaine. Le Paris 13 Atlético a été battu 3-2 à domicile par Le Mans. Et puis Versailles a battu Châteauroux 1-0. Le Paris Atlético se partage la dernière place avec Châteauroux 6 points. Et en plus, ils ont été éliminés en Coupe de France, puisqu'ils ont perdu à Brétigny 2-2 et 4-3 au tir au but. Alors que Versailles, qui est 11e avec Bourg-en-Bresse du championnat, 11e à égalité avec Bourg-en-Bresse, 11 points, eh bien Versailles s'est imposé en Coupe de France face au Tremblay, 1-2 et 3-0 au tir au but. Voilà, donc ça ne s'arrange pas pour le Paris 13 Atlético.
Ouais, c'est fou, mais ouais. Comme quoi on voit que le championnat national, c'est quand même un championnat très compliqué, parce qu'ils ont déjà connu ça il y a 2 ans, ils sont montés, ils sont descendus automatiquement, donc on peut penser qu'ils sont prévenus, qu'ils savent un peu ce qu'il faut faire, qu'ils savent un peu, et puis malgré tout, après il y a des histoires de moyens, de budget, et puis c'est vrai qu'ils sont encore partis pour une grosse saison galère, et ils vont peut-être encore faire le yo-yo, quoi.
Oui. Allez, très brièvement, il n'y avait pas de championnat féminin, puisque nos Bleus, se sont imposés 3-0 devant la Jamaïque. Ils jouent la Suisse demain avec un nouvel entraîneur, donc Laurent Bonadei. Finalement, c'est la reconstruction. Hein. On essaie de préparer l'Euro de cet été, 2025.
Ouais, voilà, oui, mais bon, c'est un peu illisible comme les matchs amicaux. La France, elle a toujours été assez bonne dans les matchs amicaux. Elle a toujours été assez bonne jusqu'au quart de finale, on va dire. Et puis après. Elle n'a jamais été, depuis maintenant une dizaine d'années. Quoi.
C'est l'éternel problème.
Elle n'a jamais été au rendez-vous. Quoi. Donc, Donc ça veut pas dire grand chose pour moi. Donc, ouais. Voilà.
Alors on avait commencé par donc ce point foot par les résultats européens. Ton sentiment sur cette semaine de Ligue des Champions, 2 victoires, 2 nuls, et puis par contre jeudi noir pour la Ligue Europa avec les 2 défaites ouais. de Nice et de Lyon.
Ah, c'est ce que je trouve très bizarre. Mon Lyon, c'est le foot quoi. Je pense qu'on peut rien dire. Hein. On a tous vu le match. Enfin, c'est le foot. Hein. 30 tirs, des tonnes d'occasions. On peut dire ils n'ont pas eu de réussite et tout. Mais en fait, si tu veux, je pense que le côté super négatif, bon, Paris, ça a été un peu pareil, pas pour le PSG.
Oui.
Le côté hyper négatif, pour l'instant, c'est Nice, quoi.
Oui.
Nice, un point pris, ça veut dire qu'ils sont quasiment, ils sont pratiquement éliminés, quoi. Je veux dire, même.
Oui, on sait ce qu'on disait avec Alexandre, oui.
Ça va être très compliqué. Et puis, on a un peu l'impression qu'on revient, quoi, qu'il y a pour l'Europe, qu'on revient. Des années en arrière, quoi. Leur adversaire n'a pas de nom, quoi. Si, il a un petit nom, mais bon, je veux dire, c'est pas comparable, quoi. Et puis du coup, ils perdent comme ça. On a l'impression qu'on est le mauvais côté, vraiment le très mauvais côté des clubs français en Coupe d'Europe, quoi, qu'on a vu, quoi.
Oui, un petit mot sur donc cette soirée du Ballon d'Or, un Ballon d'Or 2004 qui sera donc quoi qu'il arrive au rabais. Hein.
Ah ben moi je
ouais, parce que quand même hein, ouais.
Ouais,
il y a personne qui se distingue véritablement, qui se détache véritablement.
Tu prêches un convaincu,
bah oui.
Au rabais par défaut, et ça en est encore plus une confirmation. Alors après ce qui est quand même très très bizarre, c'est quoi qu'il arrive ça sera un Ballon d'Or au rabais.
Ouais.
Là visiblement ça sera pas Vinicius d'après tout ce qui s'est passé cet après-midi en passage très 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 petit Real Madrid, c'est hallucinant que le Real Madrid réagisse comme ça, mais bon, ça sera pas donc Vinicius et pas un joueur du Real Madrid, ce qui est un peu c'est vrai qu'on peut quand même un peu s'interroger si c'est Rodri, par exemple, tout le monde parle de Rodri qui a le Ballon d'Or, même si c'est rien, c'est simplement le meilleur joueur de l'Euro, quoi, c'est tout, quoi.
Ouais, ouais.
Donc je trouve que c'est un petit peu léger, même si de toute façon c'était au rabais. Et on peut dire aussi peut-être que le fait, ça je l'ai toujours dit aussi, depuis le début je dis ça, donc déjà que c'est au rabais, mais aussi que le fait d'avoir deux joueurs du même club qui soient en lice pour le Ballon d'Or, bah forcément ça nuit à la... Ça nuit au vote pour ce club. Il y a souvent, on dit aussi, deux joueurs de même nationalité, ça peut aussi nuire. Mais là, par rapport au lobbying, vous avez remarqué qu'il n'y a eu aucun lobbying du Real Madrid pour Vinicius, parce que de toute façon, ils ne pouvaient pas se permettre de faire un lobbying ou une campagne pour Vinicius et pas pour Bellingham ou vice-versa. Donc, ça paraît fou. Alors, résultat, ça va être encore plus au rabais, même si c'est un très bon joueur. Regardez un peu, là, que ceux qui nous écoutent regardent un peu les palmarès et tout des 10 derniers Ballons d'Or, c'est sans commune mesure, quoi, la saison, quoi. Mm-hmm. Et là, je parle pas, bien sûr, on va pas dire, oui, mais des Messi, Ronaldo, il n'y en aura plus, mais je parle de Karim Benzema, par exemple. Karim Benzema, quand il a le Ballon d'Or en 2022, c'est autre chose, quand même, c'est un joueur dominant qui influence l'équipe de France, il gagne avec ses exploits en Ligue des Nations, par exemple, avec qui influence le Real Madrid, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, et qui gagne tout, quoi. Je veux dire, qui influence tout. Et c'est pas le cas pour, c'est pas le cas. Moi, je disais, j'ai dit quelque chose. Je pense que même Antoine Griezmann, troisième en 2018, mériterait à l'époque, hein, si on replaçait ses performances aujourd'hui, alors qu'il était que troisième. Mériterait le Ballon d'Or aujourd'hui.
Yeah, je suis d'accord avec
par
toi.
Exemple, par rapport à même en comptant Vinicius et Bellingham. Mmh.
Très bien. Merci Stéphane. Il y avait juste, allez, 15 petites secondes, une question de Vanessa qui est en train de se convertir au foot. Là.
Je me demandais, moi, en tant que néophyte du football,
secondes,
pourquoi ce Ballon d'Or au rabais, est-ce qu'il y a une raison qui l'explique?
Il n'y a pas de joueur qui se dégage par rapport aux années précédentes, tout simplement.
Oui, voilà. En gros, pour résumer, c'est que, encore pour moi en tout cas, il n'y a pas de joueur dominant à la fois en club et en sélection. On voit un joueur comme Vinicius, par exemple, n'a pas été dominant en sélection du tout, que en club. Et puis Bellingham, un peu plus Bellingham, même si alors qu'un club, un joueur dominant, par exemple Harry Kane, par exemple, s'il avait gagné l'Euro ou une des compétitions, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts, qui gagne tout, qui fait gagner ses équipes et son équipe de club, quoi. Et c'est le cas de tous les derniers ballons d'or. Là, ça ne l'est pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne le mérite pas, parce que s'il n'y en a pas, il faut bien en donner un ballon d'or, s'il n'y a pas de joueur.
Très bien. Merci Stéphane. Rendez-vous à la semaine prochaine et belle soirée, parce que je sais que tu as beaucoup de travail avec ce ballon d'or ce soir. Merci en tout cas. Ouais. Voilà.
Alors, au revoir, bonne soirée.
Merci. Monsieur Godard, très brièvement, donc quelques secondes pour finir cette émission. Donc, vous avez un petit message.
Message. Déjà, juste pour vous dire, parce que football. Ouais. Le président de la fédération est marseillais.
Oui.
Donc je peux vous dire que les WhatsApp fédération ce matin avec Paris, d'accord, ça a été pas mal.
D'accord, très bien.
Non, pour le reste, nous, c'est de continuer surtout avec des centaines, voire des milliers de gamins. C'est le plus important. On va être partenaire avec les championnats de France de cross scolaire qui auront lieu à Cergy-Pontoise cet hiver. Mmh. Et à partir de là, et puis surtout que les gens fassent du sport. Alors, compétition, c'est une chose. Mais sport santé, surtout, c'est le principal.
Très bien. Merci en tout cas, Monsieur Godard. Merci. Donc à notre ami Léo. Hein. Bonne soirée à toutes et à tous. Dans un instant, donc, au bout du foot. Et on vous laisse naturellement en musique, je crois, avec Marie Laforêt. Belle soirée.
Paris FM.